Écoute.
Pierre Aski, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous avez été correspondant dans de nombreux endroits, Jérusalem, en Afrique du Sud au moment de la fin de l'apartheid, Jérusalem au moment du début de l'intifada, et également à Pékin. Et puis vous avez par la suite fondé le site, un des premiers pure players, Rue 89, et désormais vous êtes chroniqueur quotidien de géopolitique à France Inter, à l'Obs aussi, et pour compléter le tableau, président de l'association Reporters sans frontières. Donc, est-ce que j'exagère si je dis que vous êtes le géopolitologue plus influent en France aujourd'hui ?
Oh, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que comment on estime l'influence ?
L'audience que vous avez.
Oui, en termes d'audience, oui, parce que France Inter, en plus, est devenue la première radio, première matinale
et c'est la seule grosse radio nationale qui a une chronique
avec
de géopolitique.
Avec une chronique à l'heure la plus écoutée, 8h15, c'est le quart d'heure le plus écouté.
Que l'on peut aussi écouter, d'ailleurs, jeudi, en podcast. Je le signale à tous les étudiants.
Absolument, et le podcast a beaucoup de poids aujourd'hui dans cette... Oui, alors si on parle en quantité, effectivement... ça donne un impact que je mesurais mal avant de commencer cet exercice, parce que moi, j'ai toujours travaillé pour des médias qui avaient un public extrêmement précis. Libération pendant très longtemps, j'ai passé 26 ans à Libération. Libération a son public qu'on connaît et qui a sa sociologie, son univers culturel, etc. Après, Rue 89, c'est un site qui avait son public, qui était extrêmement précis. France Inter, d'abord, c'est service public, donc ça s'adresse à tout le monde, et c'est une audience de masse, donc on parle de millions de personnes, et ça, alors ça impressionne évidemment, et ça oblige d'une certaine manière, parce que, moi c'est comme ça que j'ai conçu ma chronique, ça oblige à être extrêmement pédagogue. Je pense que... la plupart des gens qui m'écoutent n'ont une idée que très approximative des sujets que je traite, donc je ne considère jamais rien comme acquis. Quel que soit le sujet, que ce soit un sujet de proximité européen ou un sujet lointain comme conflit entre la Chine et l'Inde à la frontière, etc.
C'est la grande force de votre chronique, justement, et c'est pour ça que moi, personnellement, je la recommande aux étudiants, c'est que vous voulez expliquer, vous vous sentez un peu comme un professeur qui viendrait tous les matins dans la cuisine ou la salle de bain pour... Votre métier, c'est quand même de rendre simples des choses qui sont censées être compliquées.
Alors, je dirais que c'est presque une partie de l'ADN du journaliste. Et en particulier, quand on est correspondant, c'est ce que j'ai le plus aimé dans ce métier, c'est les années de correspondance, que ce soit en Afrique du Sud, au Moyen-Orient ou en Chine, c'est-à-dire de rendre compréhensible pour mon public, donc en France, des situations dont il peut se moquer, disant « qu'est-ce que j'ai besoin de savoir ce qui se passe en Chine aujourd'hui ?» Et moi, mon travail, c'est de lui expliquer, un, ce qui s'y passe et en termes clairs et compréhensibles, et deux, en quoi ça le concerne, et qu'effectivement, les soubresauts qu'il peut y avoir en Chine ont un impact, peuvent avoir un impact, et dans le cas de la Chine, c'est clair, dans sa vie quotidienne ici. Mais la deuxième chose, c'est aussi cette idée du service public, c'est-à-dire que moi, j'ai cet exercice un peu contradictoire, une sorte d'injonction contradictoire qui est que cette chronique a un statut d'éditorial. Donc, on me demande de donner un avis, une opinion. Et en même temps, c'est le service public. Donc,
vous reprochez beaucoup plus à votre prédécesseur
donner
Bernard Guetta, qui
sûr,
a un avis commun,
sûr,
qui était, disons, le reproche qui lui était fait, au-delà de la qualité de son travail, c'était de prendre parti. Vous, effectivement, bon, il y a... un avis que vous donnez, bien sûr, vous n'êtes pas neutre, mais en même temps, vous ne voulez pas guider l'opinion, vous voulez plus l'éclairer.
J'essaye de donner aux gens le chemin par lequel je suis arrivé pour aboutir à une conclusion.
Mais souvent, vous donnez aussi les deux bouts, c'est-à-dire que, par exemple, dans la chronique, si vous faites une chronique sur la Chine et l'Inde, vous donnez le point de vue des deux pays, vous n'occultez pas un point de vue, ou vous ne prenez pas parti, vous donnez les deux récits.
Alors, en l'occurrence, c'est un bon exemple, parce que moi, je ne suis pas... j'essaie de pas être manichéen, donc c'est pas parce que le régime chinois est en ce moment condamnable pour plein de raisons que l'Inde a nécessairement raison dans un conflit avec la Chine. Donc, et il y a beaucoup de choses critiquables, et en particulier cet affrontement de deux nationalismes. Le nationalisme indien aujourd'hui est pas moins redoutable, et c'est pas parce qu'il y a officiellement un système démocratique en Inde que l'Inde fonctionne comme une démocratie sur un sujet comme ça. Donc, je pense que c'est important pour les gens de comprendre sur un sujet de cette nature les éléments qui permettent à la fin de se dire c'est grave, c'est pas grave. Ma sympathie ou ma sensibilité, elle va plutôt à telle grille de lecture de cet événement. Et on n'est pas, je pense, nécessairement dans la posture de dire oui, l'Inde a raison ou la Chine a raison dans tous les sujets qui viennent, parce qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels je pense que tout le monde a tort.
Hubert Védrine était à Volplace la semaine dernière et on parlait avec lui de l'irruption de la morale dans les relations internationales, du fait que très souvent certains de vos collègues ont tendance un peu à résumer les choses en disant il y a les bons, il y a les méchants. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez d'une part que par rapport depuis le temps que vous travaillez sur ces domaines, est-ce que ce manichéisme a pris de l'ampleur ou qu'en fait il a toujours existé et que il faut à chaque fois s'en distinguer?
Alors, on a tous notre histoire et notre parcours, et moi j'ai commencé à l'époque du tiers-mondisme, c'était un peu ma matrice d'origine. Ensuite, mon premier poste à l'étranger a été l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid. Et je dois dire, voilà, j'avais 20 et quelques années, j'étais tout jeune journaliste, et quand vous arrivez en Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid, vous avez tendance à regarder les choses, j'allais faire un mauvais jeu de mots en noir et blanc, voilà, il y a effectivement le bien et le mal, parce que l'apartheid était le mal absolu, ce cadre légal du racisme institutionnalisé était insupportable. Et donc oui, effectivement, moi j'ai commencé aussi en faisant un journalisme moral ou moralisateur, parce que je à la fois dans ma formation initiale post-68arde, etc., et dans mes premières expériences professionnelles, je me suis retrouvé dans des situations où on se pose pas beaucoup la question de savoir de chercher la complexité au-delà.
C'était
du bien et du mal.
C'est peut-être un cas un peu extrême.
C'est un cas extrême, mais il se trouve que c'est voilà, j'ai passé 4 ans dans ce pays et que ça m'a marqué. Après, l'avantage de l'âge, le privilège de l'âge, il faut bien qu'il y en ait un, c'est peut-être de rentrer dans la complexité et de refuser les versions toutes faites du bien et du mal. Et de non pas de considérer que tout se vaut, parce que je ne pense pas que tout se vaut, et je vais pas faire ce qu'on résume souvent, 5 minutes pour les Juifs, 5 minutes pour Hitler, sorte de d'équilibre entre les parties, ce qui n'a pas de sens à mon avis, mais de rentrer dans la complexité. Je pense que le maître mot de ce que j'essaye de faire, c'est de rentrer dans la complexité et de la rendre compréhensible et abordable.
C'est ça la difficulté, justement, enfin, à laquelle on est, si on est vraiment sincèrement dédié à la pédagogie, c'est comment ne pas nier la complexité, comment simplifier sans simplification.
Sans simplification et sans renoncer à porter un jugement malgré tout, parce que c'est un exercice éditorial. Donc, je suis pas là non plus pour dire voilà les faits, vous vous démerdez, parce que c'est ce qui est voilà, c'est ce que fait la machine d'information. Normalement, elle donne les faits
normalement. Ça, c'est la théorie, quoi.
Voilà. Et l'éditorial,
très souvent, les faits et les commentaires sont mélangés.
Et
c'est ce qu'on reproche
tout à fait au journalisme à la française, d'ailleurs, souvent. Ouais. Mais la case éditoriale, elle est là pour donner un avis. Donc, c'est clair, c'est net, c'est le job de l'éditorialiste.
Alors, comment vous avez été casté? Comment Bernard Guetta, qui était le pilier de France Inter, s'en va, choisit une autre voie, la voie politique, devient député européen?
Enfin, il passe d'abord par une case éditoriale, puisqu'il se met à faire des bouquins, voilà. etc. Et ensuite, il rejoint
est-ce que vous savez un peu comment le choix s'est porté sur vous? Quel était le profil qu'il devait faire pour incarner la géopolitique sur la radio de service public?
Alors, on a plusieurs personnes ont été contactées, donc je les connais, et donc on a à peu près le même profil, c'est-à-dire une certaine expérience. Je pense que c'est important pour ce job. Moi, ce qui me je pense que mon parcours a plaidé pour moi, dans la mesure où c'est d'ailleurs intéressant de comparer avec celui de Bernard Guetta, puisque Bernard Guetta a été correspondant en Pologne, aux États-Unis et en Union soviétique, Moscou, et la fin de Gorbatchev, etc. Et donc, il est très époque guerre froide, 20e siècle, c'est-à-dire les deux grandes puissances et le cas de la Pologne où s'est jouée une partie de la fin de la guerre froide. Et moi, j'ai le parcours opposé, qui est Afrique du Sud, Moyen-Orient, Chine, puissance émergente, conflit du monde en développement et du monde émergent. Et donc, qui sont peut-être plus ceux d'aujourd'hui, en particulier mon expérience chinoise fait qu'aujourd'hui, j'apporte quelque chose à la radio. Donc je pense que c'est ça qui a plaidé. Un, la longévité.
Mais et aussi le côté généraliste, vous n'êtes pas spécialiste régional.
Voilà, alors j'ai plus suffisamment d'expérience régionale pour que ça fasse une expérience globale. Et puis j'ai été aussi correspondant diplomatique pendant plusieurs années pour Libération, donc à traiter les affaires multilatérales, transversales.
Et quelles étaient les autres personnes qui ont été castées?
Je vais pas les donner puisqu'elles n'ont pas été retenues ou ça n'a pas fonctionné. Mais en tout cas, c'est des gens qui avaient des profils assez similaires.
Est-ce que c'est pas trop difficile de trouver? Alors, je sais que l'actualité internationale est riche, plus souvent de façon malheureuse de façon heureuse, mais ça doit quand même être un défi de se lever. Est-ce que c'est pas angoissant de se lever le matin en disant, mais bon Dieu, qu'est-ce que je vais raconter? Il faut que je trouve quelque chose.
Alors, j'ai pas le problème de la page blanche. Et en fait, la vraie difficulté, elle n'est pas là. Elle est au contraire de choisir le sujet par rapport à un trop-plein d'envie.
Vous voulez dire que tous les jours, vous avez 3-4 sujets? Tous les jours, il y a 3-4 sujets possibles?
Oui, parce que j'essaie de trouver un équilibre. Voilà, j'ai 5 jours par semaine. J'essaie de trouver un équilibre entre... Il y a des sujets incontournables. Voilà, quand il y a l'explosion à Beyrouth, quand il y a la crise en Biélorussie, l'affaire Navalny, il y a des sujets qui s'imposent et on ne comprendrait pas d'une certaine manière que je ne les traite pas le matin. Parfois, c'est même au milieu de la nuit, puisque on m'a réveillé au début de cette année quand Soleimani a été tué par les Américains en Irak. Ça s'est passé vers 2h ou 3h du matin. Enfin, l'information a été connue vers 2h ou 3h du matin. La radio m'a prévenu pour que je change ma chronique. Pour pouvoir commenter cet événement qui avait l'air...
Donc en fait, votre chronique est liée à ce qui a été dit dans les journaux juste avant.
Alors, pas forcément. Donc, c'est pour ça que je dis j'ai un clambarras du choix, parce que j'ai 3 catégories de sujets. En vrai, il y a les sujets incontournables. Donc ceux-là, il y en a toujours 1 ou 2 par semaine des événements qui s'imposent. Il y a les sujets
La paix ne menace pas votre agenda.
Non, pas vraiment. Mais la paix est intéressante à décortiquer aussi. La deuxième catégorie, ce sont des sujets qui ne font pas la une de l'actualité, mais que moi je considère qu'il faut pointer, il faut garder à l'œil et de temps en temps mettre le projecteur dessus. Et typiquement, la Chine et l'Inde dont on parlait tout à l'heure, ça fait pas la une de l'actualité. Je pense pas que ce soit très traité, par exemple, dans les médias audiovisuels.
Par exemple, vous en avez parlé un matin de la Chine et de l'Inde, mais c'était pas dans le journal qui précédait.
Pas du tout. Voilà. Et donc là, ça fait partie de cette deuxième catégorie où je choisis le moment où je mets un coup de projecteur sur un sujet qui me semble important à suivre. et à un moment où il y a suffisamment d'éléments pour le rendre intéressant et faire que les gens voilà, aient entendu parler de ça et se disent je vais surveiller quand même ce qui se passe dans cette partie du monde, ça peut être intéressant à suivre. Et la troisième catégorie, ce sont des sujets sur lesquels on n'attend pas forcément la rubrique géopolitique, mais qui sont les sujets, par exemple, qui touchent à la technologie, les usages. Je pense qu'aujourd'hui, une partie des rivalités internationales, une partie des rapports de force se joue dans le secteur de la technologie, que ce soit dans les nouvelles formes de guerre, cyberguerre, intelligence économique, fake news, manipulation, etc., ou, là on le voit entre la Chine et les États-Unis, des véritables guerres sur la technologie. C'est Poutine qui a dit un jour le pays qui maîtrisera l'intelligence artificielle maîtrisera contrôlera le monde. Bon, et ça, ce sont des sujets moi qui me passionnent, que je suis depuis des années. Peut-être parce que j'ai eu cette expérience de Rue 89 d'un site internet et que
qui était le premier
en fait pure player, c'est-à-dire non adossé à un média existant. Écrit. Et donc ça m'a beaucoup ouvert sur sur cet univers.
Mais en même temps, ces sujets sont des sujets stratégiques chauds, parce que la guerre, par exemple, sur Huawei entre Pékin
oui,
et Washington, l'interdiction faite aux Britanniques de l'acheter, les débats qu'on a eu en France là-dessus.
Oui, mais je pense que
vous pensez que ces sujets ne sont pas suffisamment traités ?
Ils sont souvent traités dans les rubriques économiques.
D'accord.
Et pas sous l'angle géopolitique.
D'accord.
Et l'affaire Huawei, c'est intéressant parce que moi, il se trouve que c'est un sujet que je connais depuis très longtemps. Il se trouve qu'en 2004, je crois, j'étais correspondant à Pékin et je vois passer une brève dans un journal français qui dit que Huawei a remporté un appel d'offres de Free, donc l'opérateur télécom français, pour 5000 km de fibre optique en France. Et à l'époque, le numéro un mondial de la fibre optique, c'était Alcatel, société française. Je me dis, mais comment Huawei, qui a connu en Europe, en tout cas à l'époque, peut remporter un appel d'offres, donc en termes de qualité, c'est comparable, et les prix évidemment cassés, et comment ils arrivent sur le territoire même d'Alcatel à être concurrentiels. Et donc j'ai voulu aller voir Huawei, donc je suis allé dans leur campus à Shenzhen, et à l'époque personne ne parlait de Huawei, c'était vraiment un tout petit, dans le monde occidental c'était tout petit. Et j'ai été époustouflé par ce que j'avais vu, parce que il y avait d'abord un campus à l'américaine, des
immeubles. Dès 2004.
Dès 2004. Il y avait une stratégie qui apparaissait clairement. On voyait passer plein de bus avec des ingénieurs, des techniciens d'Égypte, du Pakistan, etc. Parce que Huawei s'était fait les mains sur le marché chinois, immense. Ensuite, était parti à l'exportation dans les marchés tiers, c'est-à-dire les pays délaissés par les Occidentaux, pays compliqués, le Soudan, le Pakistan, l'Égypte, des pays où les grands opérateurs, les grands équipementiers occidentaux n'allaient pas trop, ou en tout cas, ou délégués. Là, et Huawei s'était fait la main dans ce deuxième cercle. Et une fois qu'ils avaient pris de l'assurance, ils sont partis à l'assaut des marchés occidentaux, et en 10 ans, ils sont devenus numéro un de l'équipement, et Alcatel est mort, pour reprendre cette comparaison. Et donc, moi, Huawei, c'est quelque chose que je vois bien l'importance que ça a dans le système chinois. Ce qui fait que quand la directrice financière de Huawei, fille du fondateur de la société, a été arrêtée à Vancouver, je pense que j'ai dû faire un des premiers articles dans la presse française, ma chronique de France Inter, pour en signaler l'importance, parce que je sais très bien que s'en prendre à la fille du chef de la société emblématique de la nouvelle Chine en plein essor technologique, c'est une déclaration de guerre.
Ouais.
Et on a bien vu que par la suite, c'est devenu. Donc c'est le type de sujet que mon profil permet de traiter aujourd'hui.
Donc vous avez en réserve quelque part, s'il y a pas un événement brûlant,
exactement,
vous avez des thèmes.
Exactement.
Ça va. On va pas être intrusif dans le vie privée, mais quand même, ce qui est intéressant, c'est comment vous faites, comment vous travaillez, comment pour chaque jour produire quand même ce billet qui est écrit, etc.
Ouais.
Vous n'improvisez
pas.
Alors,
je fais une veille d'information assez considérable. C'est-à-dire, je passe 3-4 heures par jour à scanner la planète, et avec plusieurs sources qui sont Les réseaux sociaux, je pense que il y aurait beaucoup à dire sur les réseaux sociaux, mais un bon usage professionnel des réseaux sociaux est formidable.
Ça, ça signale quelques pépites qui sont ignorées.
Mais exactement, et ça permet d'anticiper, c'est-à-dire de voir monter cette expression que j'aime pas trop, mais qui est les signaux faibles. C'est très à la mode de parler des signaux faibles. Mais quand vous suivez les acteurs politiques, économiques, sociaux, journalistiques, etc., dans les différents pays ou dans les différentes sociétés, vous prenez les débats qui montent avant qu'ils soient repris par la presse internationale. Donc avant que ça fasse un article dans Le Monde ou dans le New York Times, vous avez un débat qui a commencé à voir le jour dans des cercles. Donc les réseaux sociaux, moi, me permettent de faire ça. Je dois suivre 4 ou 5 000 personnes à travers le monde, ce qui demande une certaine organisation pour ne pas se noyer, parce que ça fait un flux absolument considérable, mais ça, c'est important. Et puis, je suis abonné à une douzaine de titres, que ce soit à Hong Kong, à Beyrouth, Jérusalem, Johannesburg, Londres ou New York. Donc, et tous les jours, je fais ma petite tournée pour voir un peu de quoi on parle.
Un travail de documentation, finalement, de l'actualité.
Oui, et de veille, c'est-à-dire, non pas pour le sujet du jour, mais en me disant, ah ben, c'est intéressant, les Australiens, ils sont en plein débat sur leur relation avec la Chine, à surveiller. Voilà. Et peut-être que, j'en parlerai jamais, mais peut-être que 3 jours après, là, j'ai failli, par exemple, c'est un des sujets possibles cette semaine, parce que les deux derniers journalistes australiens, correspondants australiens à Pékin, ont dû quitter
craignant d'être arrêtés.
Dans des circonstances assez dramatiques, puisque descendent de police chez eux à minuit, ils vont se réfugier à l'ambassade, enfin bon, et ils sont exfiltrés par le gouvernement australien et leurs entreprises de presse. Il n'y a plus aujourd'hui, pour la première fois depuis 1973, donc ça fait un moment, de journalistes australiens basés à Pékin. Ce qui montre, voilà, il y aurait beaucoup à dire sur la dégradation des relations qui ont été à un moment extraordinaire, parce que quand la Chine a commencé sa croissance à deux chiffres, l'Australie a été a profité, il y a eu un boom minier en Australie pour alimenter
le commerce de l'Australie avec la Chine est supérieur au commerce de l'Australie avec les États-Unis.
Exactement. Et donc je trouve que c'est voilà un sujet.
Revenons à Macking. Alors vous faites cette veille et ensuite vous levez très tôt le matin.
Alors je me lève très tôt pour aller à la radio, pour être. Mais j'écris ma chronique la veille au soir.
Hein. D'accord.
Je me réveille très tôt parce que d'abord je veux vérifier qu'il s'est rien passé dans la nuit qui remettent en cause la chronique ou qui m'oblige par exemple à faire un autre sujet avec les décalages horaires, etc. Mais la journée, il y a une sorte de montée en puissance. C'est-à-dire dès que je quitte le studio, en fait, je commence à penser à la suivante. Et je choisis mon sujet en milieu d'après-midi.
D'accord.
J'essaye de ne pas anticiper. C'est-à-dire
totale liberté.
Oui.
Totale liberté.
Oui. La seule limite, c'est ne pas saturer l'antenne d'un seul sujet. S'ils ont prévu un gros reportage d'un correspondant ou d'un envoyé spécial dans le journal de 8h, et que moi j'arrive à 8h17. Sur le même sujet, parfois ça fait trop si c'est pas le sujet dramatique du jour. Donc on essaye de trouver un équilibre, un dosage entre.
Alors c'est de plus en plus suivi, forcément. Vous avez de multiples réactions dès que vous évoquez des sujets. Il y a les pour, les contre, les accusations d'être vendu à telle ou telle puissance. Vous devez connaître ça par cœur.
Oui, alors j'ai toujours eu ça dans ma vie. Hein.
C'est pas nouveau,
mais
ça monte là forcément sur Inter.
Oui, alors le Moyen-Orient est évidemment le plus sensible parce qu'il y a une caisse de résonance en français, aussi bien en France que sur place au Moyen-Orient, qui fait que dès qu'on touche à cette région, on est accusé.
Mais du coup, certains médias disent, faut plus en parler. On voit débats sur France 2 dire, faut plus en parler parce qu'on prend des coups de partout.
Oui, mais moi, j'ai l'habitude de prendre des coups et ça me
fait pas peur.
Ça me fait pas peur et je trouve justement, c'est très grave qu'on renonce à parler de certains sujets.
C'est pas ça qui nourrit le complotisme justement, un peu de quand.
Oui, bien sûr. Ouais. Mais je pense que ça alimente à la fois le complotisme, mais aussi la pénurie d'informations, parce que il y a des sujets où effectivement on a perdu la le niveau de compétences. Mais il y a d'autres sujets. Par exemple, la Chine aujourd'hui. Alors moi, j'ai un public chinois, mais sur la Chine, je me retrouve. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que chacun a son réseau social. Moi, c'est sur la Chine, c'est sur LinkedIn que je me fais attaquer, qui est un réseau plus professionnel. Donc, des gens soit sont chinois, parce que LinkedIn est le seul réseau occidental autorisé en Chine, c'est intéressant, soit qui ont des intérêts en Chine et qui sont vigilants à avoir l'air de défendre la Chine. Donc, c'est là que ça se passe. Sur le Moyen-Orient, c'est plus évidemment sur Twitter, où là, le théâtre de la confrontation se déroule. Il y a d'autres sujets sur lesquels il y a plus de complots sur Facebook, etc. Parce que j'essaye d'être présent un peu sur toutes ces plateformes.
Et du coup, à fin de quotidienne, vous ne pouvez plus trop voyager à l'étranger.
Alors, j'essaie de voyager de manière assez brève, donc le week-end. Alors, bon, maintenant, avec le virus,
avant, par exemple,
en novembre, avant le Covid, je suis allé passer 3 jours à Beyrouth pour aller suivre les manifestations.
Et vous pouvez faire votre chronique par...
Non, pas du tout. Non, je suis parti le vendredi à midi après la radio et je suis rentré le dimanche après-midi.
Et vous pourriez d'entendre le faire par...
Je pourrais, mais c'est toujours une dose de stress et ils n'aiment pas trop ça parce que le son est moins bon, etc. Voilà. Donc, j'essaye de faire des petits sauts de puce, mais même passer 2 jours et demi à Beyrouth, au cœur du mouvement. En plus, c'est un endroit que je connais bien, donc j'avais des amis qui m'ont présenté tous les acteurs clés de cette situation. C'était passionnant et c'est quelque chose qui me nourrit et qui me permet de savoir que je ne me trompe pas trop. C'est-à-dire que c'est ça qui est, que enfin je parlais tout à l'heure de la longévité et de cette expérience qui fait que c'est un poste où il faut avoir cette expérience. Sur 80% des sujets que je traite, j'ai un socle d'acquis. C'est des sujets que j'ai déjà traités à un moment dans ma vie. Là, par exemple, on parle beaucoup du Mali, des événements au Mali, etc. Dans les années 80, j'ai couvert l'Afrique pour Libé. J'ai sillonné toute cette région. Je suis même allé, j'étais à Tombouctou en vacances avec mes enfants. Ça paraît surréaliste de dire ça aujourd'hui, mais dans les années 80, je suis allé dans toute cette zone.
C'est plutôt déconseillé maintenant.
C'est totalement déconseillé maintenant. Mais voilà, c'est des zones dont j'ai une connaissance parfois intime de ce point de vue-là. Et donc, ça ne veut pas dire que je comprends ce qui se passe aujourd'hui au Mali, mais j'ai un socle de connaissances humaines, historiques. Moi, j'avais une habitude, j'ai gardé, mais quand je vais dans un pays que je ne connais pas, j'emmène la littérature de ce pays. Donc, je vais toujours faire une razzia dans des librairies, notamment rue des Écoles. L'Harmattan, il y a des milliers de livres dont on ignore l'existence et trouver un roman malien ou du Malawi ou du Kazakhstan, on trouve ça à l'Harmattan. Et donc j'ai à la fois cette connaissance du terrain où je suis allé, donc ce contact humain, moi il m'est important. Il y a des gens qui ont une pure approche intellectuelle et qui n'ont pas besoin de ça. Et quand je suis arrivé en Chine, par exemple, ma première année en Chine, je m'étais obligé à sortir de Pékin tous les mois dans une province différente. En plus de l'actualité qui pouvait m'emmener à droite à gauche, je m'étais dit, voilà, c'est un pays tellement vaste, tellement divers. J'ai besoin, moi, de sentir et de savoir que quand il neige à Pékin, on est en tong à Shenzhen. Que si vous prenez, donc à 3 heures d'avion vers le sud, si vous prenez l'avion 3 heures vers l'ouest, vous arrivez au Xinjiang, où vous avez une autre culture, une autre religion, une autre musique, une autre langue. J'ai besoin de sentir ça. Après, se rajoutent des couches de connaissances historiques ou intellectuelles, etc. Mais en tout cas, j'ai besoin de cette... Et il se trouve que... l'Amérique latine est un peu mon trou, ma faille, bon. Dans laquelle j'ai moins travaillé. Mais... l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Europe, l'Asie, j'ai beaucoup circulé dans ces zones. Et donc, ça m'aide énormément à me faire un avis. Et puis j'ai un réseau de gens que je peux appeler, ça m'arrive quand
Voilà,
même
pour
régulièrement,
débriefer, pour
pour
prendre la
vérifier, pour
température,
vérifier que
pour...
je me trompe pas, voilà,
D'accord.
que parfois on a des intuitions et ces intuitions peuvent être trompeuses et donc c'est toujours bien d'appeler un copain journaliste ou diplomate ou qui vit dans le pays et qui vous dit non, là tu te trompes complètement, c'est pas du tout ça qui se joue dans cette crise, etc.
Ok, merci Pierre Aski de ce tour
Merci.
d'horizon, de nous permettre un peu d'être dans la boîte, de savoir comment se fait la géopolitique. Et j'invite tout le monde, soit à vous écouter en direct à 8h17, 8h18, soit à s'abonner au podcast. C'est très simple, vous avez une alerte et vous pouvez écouter ça dans le métro. Merci.
Merci.